Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, et en direct depuis les studios de Radio Canus, Robert et Jean-Pierre, pour honorer cette fête du 14 juillet, le 15 juillet, avec un jour de retard, et beaucoup d'actualités nationales, internationales, que nous allons évoquer en commençant tout de suite. Par quoi ? Mais par quoi on commence, Robert ? T'as une idée ?
Par quoi commencer ? Mais peut-être par ce héros de la lutte anticapitaliste de la communication. C'est les aventures de Snowden, cet agent américain, espion, traître aux Américains et on va dire au monde occidental. Il semblerait que ce Snowden soit en cours de passer son examen d'entrée en Russie sous la forme effectivement d'un dossier d'accueil d'un exilé. Et puis une fois l'exilé Snowden installé en Russie, il lui sera sans doute, parce que il aura la protection à ce moment-là internationale de tous les exilés, puisqu'on sait qu'à l'ONU il y a des textes très particuliers là-dessus. Même si effectivement il y a des demandes d'Interpol et autres pour l'Europe et puis américaine. Au prétexte que pour eux c'est quelqu'un qui est coupable. Donc ensuite de Russie pourra normalement par un vol régulier non détournable se retrouver ensuite soit à Caracas au Venezuela soit à La Havane à Cuba ou peut-être en Bolivie aussi, Morales aussi, et puis peut-être un endroit qui n'est pas encore celui auquel on penserait, parce que les pays progressistes d'Amérique du Sud qui ont donné leur avis favorable sur cette question. Mais il y a d'autres pays aussi qu'on soupçonne peut-être pas, dans lesquels il pourrait trouver refuge. Donc c'est un grand roman d'espionnage, mais et roman policier, un peu digne de la guerre froide, bien que ceux qui se font la guerre, ce sont des capitalistes entre eux. Ce qui est d'ailleurs peut-être plus dangereux que quand c'était des communistes face aux capitalistes. On se demande finalement, c'est pas plus dangereux.
Pas exagéré. Ils n'ont pas les mêmes arsenaux d'armement nucléaire les uns et les autres. Ceci dit, c'est fait. Les guerres sont toujours économiques de toute façon. Puisqu'on est dans les États-Unis, on peut dire un mot de M. Zimmerman qui a assassiné assez froidement M. Martin en février 2012 en Floride. Le croirez-vous, M. Zimmerman était blanc, M. Martin était noir et M. Zimmerman a été innocenté. Au terme d'un procès, il était vigile, il a cru voir, on ne sait pas bien, en tous les cas, le petit Martin, qui était un adolescent, avait sa capuche et il lui a tiré dessus. On a réussi à faire un procès de ce monsieur Zimmerman pour le déclarer non coupable de rien, sans avoir évoqué la question du racisme, sans avoir évoqué la question du débat sur les armes, et du coup, il y a un certain nombre de personnes aux États-Unis qui protestent, qui manifestent contre ce verdict et qui réclament une vraie justice. Obama en est gêné lui-même et demande à tout le monde de se calmer. Bon, qu'on soit que ce soit peut-être son rôle de président, mais on pourrait attendre une analyse un peu plus fine de la situation.
Oui, il s'est contenté de dire que les États-Unis étaient un pays où l'état de droit était la règle. Donc il se cache derrière son petit doigt.
Voilà, autre sujet. Ben tiens, on va parler d'un autre procès, du 9 octobre 63, qui faisait suite à une arrestation du 11 juillet 63. C'était en Afrique du Sud, l'époque de l'apartheid régnante. Et il y a un groupe d'opposants, la branche armée de l'ANC, qui s'appelait la Lance de la Nation, et qui avait organisé une réunion dans une ferme. Enfin bref, ils devaient être pistés, ils ont tous été arrêtés. Et il y a eu comme ça un coup de filet au terme duquel le procès du 9 octobre, qui envoyait à perpétuité un certain nombre de gens, je n'ai pas tous les noms, je pourrais les trouver, mais dont Mandela, donc, qui en fait de perpétuité a quand même fait 20 ans de prison suite à cette condamnation. Voilà, 11 juillet 63, 15 juillet 2003, c'est pas inintéressant de se rappeler ces événements dramatiques d'une autre période qui n'a peut-être pas si passé de mode que cela.
On évoquait tout à l'heure tout ce qui bouge, indirectement, à partir de l'affaire Snowden, ce qui bouge dans cet amer indien du continent sud américain. On a surpris en même temps. On est peut-être là aussi avec l'évolution d'une nouvelle forme de participation à des changements importants du point de vue social, et je veux parler du Brésil. Brésil, ça fait plusieurs semaines, alors selon les Européens, toujours croyant tout savoir et croyant avoir la possibilité de dire ce qui va se passer ou pourquoi ça se passe, en fait, sont perplexes. Alors il y a ceux qui finalement se frottent les mains que l'équipe issue du Parti des Travailleurs est en difficulté à la tête de la fédération brésilienne. Il faut rappeler que le Brésil est une fédération. Et puis il y a des gens comme nous qui sont restés attentifs à l'évolution du Brésil, tout en regrettant, mais on va dire on n'est pas à leur place, regrettant que des choses ne sont pas allées aussi loin, que ce soit par exemple en termes de réforme agraire, ou sont allés trop loin en termes d'industrialisation. Ou dans l'agroalimentaire, quand effectivement on met en cause quelque peu, et même sûrement, le climat général en laissant des multinationales s'installer, soit pour faire du soja, soit pour faire d'autres choses comme ça. Mais néanmoins, donc, il y a eu ce peuple brésilien qui s'est mobilisé. C'est parti de cette affaire des milliards qui vont être consacrés à la Coupe de football de l'année prochaine. Et puis, en fait, très rapidement, c'est un peu l'étincelle. Très rapidement, le fond de la question est arrivé sous la forme de demande de droits à des services publics gratuits, en grande partie. Ça existe dans le domaine de l'éducation, la santé, mais ça n'existait pas au Brésil en termes de transport. Et la lutte dans les grandes villes, parce que puis peut-être que ça touche aussi les relations. C'est un grand pays. Ça touche aussi peut-être des pays moindres que Brasilia, São Paulo et Rio.
Il faut peut-être dire aussi que sur les transports, ce que connaissent les usagers au quotidien, c'est quatre fois rien. Ce que connaissent nos usagers à Paris dans le RER, c'est quatre fois rien à côté de ce que connaissaient les Brésiliens. Hein. Ils sont dans une situation d'incapacité de transporter le monde. Il y a des cohues et tout le monde ne peut jamais embarquer. Donc il y avait un gros mécontentement lié à cette insuffisance des moyens de transport dans le pays. Alors après, on comprend que ça soit aussi focalisé là-dessus, parce que les gens qui vont bosser tous les matins et qui prennent une heure de retard, il n'y a pas moyen de faire autrement parce que il y a trop de monde et que les trains n'avalent pas la population, ça finit par faire un très fort mécontentement, quoi, autour de quoi c'est cristallisé le mouvement.
Oui, et l'idée que les milliards qui vont être investis dans le football seraient peut-être mieux investis dans effectivement une modernisation et un doublement, triplement des moyens de transport. Surtout que ce sont des villes qui croissent à une vitesse souvent exponentielle, surtout avec des quartiers lointains. Alors, les quartiers lointains, ça n'est plus des bidonvilles. Enfin, il y a des bidonvilles dans les grandes villes. Mais il y a aussi maintenant des zones qui sont pour les classes moyennes, où les gens ont de l'espace, mais ils n'ont pas les transports. Alors, et prendre leur voiture, c'était pas pour les classes moyennes. C'est pour ça que dans la lutte, il y a à la fois des gens très très pauvres et puis une partie des classes moyennes qui étaient sans doute sur des demandes un petit peu différentes. Mais il n'empêche que il semble bien que le gouvernement central brésilien a fait ce qu'il fallait, que une partie des transports va être gratuit. C'est en bonne voie au Brésil.
Il faut absolument calmer le jeu avant les Jeux Olympiques. On parle de l'Égypte un petit peu, puisque coup d'État, pas coup d'État, difficile de dire. Certains disent que ce n'est pas un coup d'État parce que les militaires n'ont pas pris le pouvoir. Ils l'ont refilé quasi instantanément à des civils, des gens de la société civile. Et d'autres disent, bah si, c'est un coup d'État, puisqu'il y avait un président élu par les urnes et qu'on l'a foutu en tôle et que même maintenant, on est en train de l'inculper, donc ça s'appelle comme ça. Après, chacun, selon ses options politiques et diplomatiques, il va d'une option ou de l'autre, mais on sent qu'il y a comme un malaise, quoi. En tous les cas, aujourd'hui, William Burns est en Égypte, il rencontre les responsables militaires. Alors, on ne peut pas oublier que les militaires ont joué un rôle important dans le renversement du précédent pouvoir et qu'ils sont financés à 80% par les Américains. C'est dire qu'ils sont quand même tenus quelque peu d'appliquer la politique que les Américains leur demandent d'appliquer, entre autres cet écran de stabilisation avec Israël, ce dont il s'acquitte correctement, même dont s'acquittait correctement Mossad, ce qui fait que les Américains finalement se trouvaient que ça allait pas trop mal avec lui. La population, c'est pas pareil, parce que les frères n'ont pas été capables de développer économiquement, enfin de sortir le pays d'un marasme effroyable. Il y a beaucoup de jeunes dans ce pays de 80 millions d'habitants. Et la révolte se fait peut-être plus autour de l'incapacité à gouverner et à relancer le pays des islamistes au pouvoir que contre le fait que ce soit des islamistes. Toujours est-il que la situation reste un peu comme ça. On attend, on a du mal à constituer un gouvernement. On pense que dans une semaine, on y arrivera. Il n'est pas sûr que ce gouvernement convienne à un grand monde. Est-ce que on essaiera d'aller vers de nouvelles élections législatives en espérant que, compte tenu du résultat des frères musulmans, cette fois peut-être, les gens seront moins enclins à voter pour eux. Voilà un petit peu, mais on peut dire d'autres choses, je pense, sur la situation en Égypte aujourd'hui.
Oui, c'est... La situation de Morsi a été paradoxale parce que il a essayé d'être au centre de la vie politique égyptienne pour tenter, semble-t-il, maîtriser toute la tendance activiste des frères musulmans. Mais comme il n'avait pas le soutien des laïcs, qu'il n'avait pas non plus le soutien de l'autre branche islamique, c'est-à-dire les salafistes, donc il était seul, et on peut dire que son plus grand ennemi, ça a été tout l'appareil des frères musulmans qui s'est reconstitué depuis l'étranger, mais aussi depuis les sorties de prison. On le voyait d'ailleurs, puisque en matière de justice, comment souvent en matière, on va dire, de mœurs, de vie des citoyens, des libertés individuelles, de la femme, tout ça, on sentait qu'il était pratiquement paralysé, réduit à l'impuissance, et donc il cédait chaque fois, et puis on voyait que, et là, ça a fini effectivement de faire exploser la bulle de la révolte, puisque ça dit, mais il est en train d'installer un véritable État islamique. Voilà, alors il paye sans doute. Alors qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus ou de moins? Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, il est d'ailleurs, on connaît pas son sort. Bon, on pense que son sort, il est quand même. Rien ne sera fait pour attenter à la fois à sa dignité d'ex-chef d'État ou à sa vie propre. Parce que les Américains d'abord ne veulent pas, les Européens non plus. On dit attention, on ne veut pas que vous touchiez un poil de la tête des cheveux de Morsi. Par contre, alors ce qui est impressionnant et en même temps inquiétant, c'est la montée en puissance populaire du général ministre de la Défense, hein, le général Abdel Fattah al-Sissi. Alors, peut-être qu'il était déjà connu un peu, mais en fait, apparemment, non. Il a suffi que le jour où les militaires ont décidé donc d'écarter Morsi, c'est lui qui est apparu à la télé et qui a dit voilà ce que nous avons décidé, voilà. Alors du coup, je lisais dans l'Huma que son portrait se vend comme des petits pains, et on se demande s'il n'y a pas une espèce, enfin, les anciens peut-être y pensent, les jeunes c'est peut-être moins sûr, mais si certains ne veulent pas faire remonter l'histoire de 60 ans, c'est-à-dire retrouver 1952-1953 l'arrivée de Naguib et puis Nasser au pouvoir de l'armée, les officiers libres, etc. Et que finalement certains se disent bon, de toute façon, on a eu jusqu'à présent que des militaires, alors pourquoi pas un qui ressemblerait à Nasser au pouvoir. Et visiblement, c'est une hypothèque importante et sans doute grave, parce que d'abord, ce général, on ne sait rien de ce qu'il pense. Il est simplement l'homme qui est capable de sans doute de faire que l'armée n'éclate pas. Et mais il n'a rien, il n'a pas de programme, Nasser. C'était la lutte contre les colonialismes anglais, français, tout ça. Et puis c'était le canal de Suez, et puis c'était le soutien aux luttes d'indépendance comme les Algériens et d'autres. Avec ce général-là, rien de tel.
Oui, mais la problématique
aujourd'hui, on ne sait même pas s'il soutient les Palestiniens, par exemple.
La problématique aujourd'hui, c'est pas ça, c'est de garder une unité à l'Égypte, déjà, d'éviter un éclatement du pays entre les Coptes, on peut pas les oublier, les différents groupes islamistes, et ce que semble rechercher le pouvoir et les Américains, c'est la stabilité, et donc un homme qui arrivera à faire tenir tout ça ensemble en développant un tant soit peu l'économie et le tourisme, quoi.
Alors il y aura le commis voyageur tout enréolé de son passé, Al Baradei, qui serait, on dit qu'il serait le vice-président ou le vice-premier ministre, mais qui serait le voyageur de commerce. Il serait chargé effectivement de vendre l'Égypte, de faire que l'Égypte retrouve sa place sur le plan international.
Allez, on parle un petit peu du Mali, c'est dans l'actualité aussi. J-2 semaines avant les présidentielles. Ça se présente bien et ça se présente mal, puisque à Bamako, ça a l'air d'aller assez bien. 7 millions de cartes électorales arrivées, plus ou moins distribuées. Le problème, c'est le nord du pays, parce qu'alors là, le Nord, rien ne va. C'est-à-dire que le MLNA tient toujours cette partie du pays et que même les observateurs d'élections ne veulent pas se hasarder à y aller. Tout le monde craint les Kalachnikovs. Du coup, si les élections ont lieu comme prévu à la date impartie, ben ça veut dire que il y aura que une partie du pays qui aura voté. Et ça ressemble bien à une scission. Et sinon, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On reporte ces élections, puisque de toute évidence, le pouvoir central du Sud n'est pas en mesure d'assumer la situation au Nord, où le MLNA tient toujours la dragée haute. Voilà, c'est là où on en est 15 jours avant. Et le président Hollande doit peut-être être obligé de manger son chapeau si les élections n'ont pas lieu. Ou alors on fait les élections au forceps avec ceux qu'on pourra faire voter et on laisse tomber les autres. Mais bonjour, les lendemains électoraux et leurs conséquences. Voilà. Rien de plus sur le Mali, Robert ? Un autre sujet peut-être ?
Mais c'est-à-dire qu'on en reparlera directement peut-être quand on parlera de l'intervention de François Hollande hier sur l'ensemble des sujets abordés à l'occasion du 14 juillet. Mais effectivement, bon, c'est on va dire, on voit que il a affiché avec la présence des Maliens, des combattants maliens qui, bon, dont on est en train de vouloir construire une armée. Et puis aussi un petit bataillon de Tchadiens, bon, qui ont défilé sur les Champs-Élysées. Tchadiens qui sait que finalement, Déby, le président du Tchad, c'est pas un enfant de cœur, hein, c'est pas un peu dur dans son pays. Donc, quand on prétend faire des interventions au nom des droits de l'homme, on peut se poser des questions, mais en même temps, la réalité était là. Sans les Tchadiens, il est probable que, au moins au départ, Hollande n'aurait pas réussi.
Ouais. Notre sujet, on reviendra bien sûr sur la prestation présidentielle. L'Espagne, ça remue pas mal en Espagne, puisque Rajoy, le Premier ministre, est bousculé, est un peu sommé de s'expliquer, voire de démissionner. Et comme on en a connu un autre, il est droit dans ses bottes et il déclare que même pris la main dans le sac, avec des compléments de salaire versés par le parti pendant des années, avec une double comptabilité. Ce Premier ministre exemplaire et ses sbires, parce qu'il n'est pas tout seul à être mouillé par son ancien trésorier entre les mains de la justice, celui-là, donc il balance un maximum pour essayer de rompre sa solitude face aux juges, et ça crée bien sûr une crise politique en Espagne.
Mais toujours aussi en Espagne, on en parle peu, mais il y a des occupations de terres qui se poursuivent. Elles vont se poursuivre d'autant plus que l'Espagne, étant elle aussi victime de la crise interne au capitalisme, eh bien, des gens vont chercher un retour à la terre. Et il faut savoir qu'en Espagne, il y a des centaines de milliers d'hectares de terres inexploitées. Et il y a une affaire récente. D'ailleurs, à propos des occupations, on peut rappeler que ici, bien, je crois que les Lyonnais et autres ont pu admirer, je crois, les images rapportées des occupations là d'immeubles. À Barcelone, hein, ça s'était passé, ça a dû rester quelques jours.
On avait reçu José pour nous en parler, qui animait les débats autour de ces occupations, ces squats de Barcelone.
Alors il y a un représentant d'un syndicat agricole d'Andalousie, ce syndicat s'appelle le SAT, S-A-T, il est un peu ou même peut-être plus que lui d'ailleurs, le José Bové en Andalousie, et qui a, bon, il a fait comme ça, et il a souvent des amendes parce qu'il fait, il aide à des occupations ou à des actions paysannes. Et il s'en était pris avec d'autres, naturellement, de son syndicat paysan, aux propriétés de la duchesse d'Alba. La duchesse d'Alba en Andalousie qui dispose de 30 000 hectares dont une grande partie ne sont pas cultivés, mais le fait qu'elle les a est quand même bon, elle semble souvent, elle fait des dossiers très habiles à Bruxelles pour montrer que ces terres ne sont pas inactives, et du coup elle reçoit au nom de la PAC, elle reçoit 3 millions d'euros chaque année. Alors, bon, c'est pour dénoncer ce scandale que ces paysans du SAT interviennent. En Andalousie, 60% des terres cultivables, elles, les cultivables, donc celles en grande partie de la duchesse d'Alba, sont détenues par 3% de propriétaires. 3% détiennent 60% des terres cultivables. Voilà, donc c'est des actions comme ça qui ne sont pas du tout freinés par la situation, par le mouvement. C'est un peu en parallèle. Bon, est-ce que des rencontres se font entre ce monde des occupations des terres et puis ce monde des occupations des maisons ou des immeubles abandonnés, voire de quelques usines abandonnées? Il y en a moins qu'en Grèce, mais il y en a aussi en Espagne. Ça, c'est effectivement ce qu'on peut toujours dire. Et la coordination de tout ça, effectivement, mettrait singulièrement en danger le pouvoir politique espagnol.
Un mot d'Israël et de l'Iran. On a Netanyahou qui fait monter les enchères en déclarant que le nouveau président iranien est pire que l'autre, un loup déguisé en mouton, dit-il, et surtout en laissant entendre qu'il pourrait bien déclencher les hostilités, c'est-à-dire les bombardements des installations nucléaires, même sans, enfin en tout cas avant les Américains. Alors est-ce que c'est des mots en l'air pour simplement faire monter la pression diplomatique, ou est-ce qu'il en a réellement l'intention? C'est difficile de le dire ce soir, quoi. Voilà, d'autres. On fait une pause musicale, Robert? Alors, 14 juillet 1993, 15 juillet 2013, 20 ans après, presque jour pour jour, disparaissait Léo Ferré, un pied de nez à la République. Alors, on va écouter une chanson de Léo Ferré. J'ai recherché dans mes vinyles une chanson d'époque qui marque bien Ferré. J'ai pas trouvé grand-chose, j'en ai plus beaucoup. Il y en a un, il est un petit peu rayé, mais ça fait rien, ça vaut la peine d'écouter.
Veste à carreaux, bien smoking, portefeuille dans la tête, chemise en soie pour les meetings déjà voûtés par les courbettes. La page des sports pour les poumons, les faits divers que l'on mâchonne, le poker d'as pour l'émotion, le jeu de dames avec la bonne, le jeu de dames avec la bonne, le jeu de dames avec la bonne, le jeu de dames avec la bonne. C'est l'homme. Le poil sérieux, l'âge de raison, le cœur mangé par la cervelle, du talent pour les additions, l'œil agrippé sur les pucelles. La chasse à cour chez Bertrand, le dada aux boîtes de Boulogne, deux ou trois coups pour le faisan et le reste pour l'Amazon.
C'est l'homme.
Les 5 à 7, pas vu, pas pris, la romance qui tourne à vide, le sens du devoir accompli et le cœur en celluloïde. Les alcôves de chez Barbès, au secret de Polichinelle, l'amour qu'on prend comme un express alors qu'elle veut faire la vaisselle.
C'est l'homme.
Le héros qui part le matin à l'autobus de l'aventure et qui revient après le turbin avec de vagues courbatures. La triste cloche de l'ennui qui sonne comme un téléphone, le chien qu'on prend comme un ami quand il ne reste plus personne.
C'est l'homme.
les tempes grises vers la fin, les souvenirs qu'on raccommode avec de vieux bouts de satin et des photos sur la commode. Les mots d'amour rafistolés, la main chercheuse qui voyage pour descendre au prochain arrêt, le jardinier de la fleur de l'âge,
c'est l'homme.
Le va-t-en-guerre, il faut y aller, qui prouve de la géographie avec des cocardes en papier et des tonnes de mélancolie. Du goût pour la démocratie, du sentiment à la pochette, le complexe de panoplie que l'on guérit à la buvette,
c'est l'homme.
L'inconnu qui salue bien bas les longs et douloureux cortèges, qui ne se rappelle pas qu'il a 75 berges. L'individu morne et glacé qui gît bien loin des mandolines et qui se dépêche à bouffer les pissenlits par la racine, c'est l'homme.
Le Ferré, dans les années 50-60, une vieillerie qui est toujours d'actualité. Vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info du lundi 15 juillet 2013, avec la rubrique nationale que nous abordons, sus au tricastin, sus aux fissures du nucléaire. Une trentaine de militants de Greenpeace ce matin ont escaladé les grilles du Tricastin et ont pu arriver tranquillement en une vingtaine de minutes tout près du cœur du réacteur. Alors les dirigeants du Tricastin nous expliquent que mais on les avait vus depuis le début, mais comme on sait qu'ils sont gentils, on ne s'est pas inquiété, on les a laissés progresser. Tiens, bon oeil. Bon, tout ce qu'ils ont fait, effectivement, c'est qu'ils n'ont pas tiré dessus en sachant que ces gens-là venaient pour faire une action politique et pas pour remettre une bombe. Néanmoins, ça prouve, c'est ce que voulaient montrer les militants, je pense, de Greenpeace, qu'on n'importe qui pouvait facilement entrer et approcher des zones sensibles avant qu'il y ait eu la moindre réaction, parce que les flics ont mis une heure pour arriver. Pourquoi le Tricastin ? Parce que c'est une des centrales qui devrait être fermée, tout comme Fessenheim, et qu'on sait qu'il y a une vingtaine de fissures de détectées sur la cuve, et que pour le moment, silence radio, pas de décision prise, donc c'était aussi une bonne manière, à trois jours, c'est jeudi, de la fin du débat sur la transition énergétique, de rappeler que il y avait eu des engagements de prix et qu'il y a des engagements de sécurité publique qui seraient peut-être bon de prendre au plus vite. Après le nucléaire, le gaz de schiste peut-être. Alors Montebourg a dit oui, suffit de faire des choses bien. On ne sait pas ce que c'est, mais Hollande a dit non, pour une fois, encore. Je ne sais pas que tant qu'il serait là, il n'y aurait pas d'exploitation de gaz de schiste en France. On aimerait le croire. Toujours est-il que ça fait quand même tâche, ces désaccords entre certains membres du gouvernement. Et puis les lobbies qui œuvrent pas tellement en France, parce qu'ils s'en foutent un peu, mais ils œuvrent à Bruxelles, au niveau de l'Europe. Et s'ils arrivent à faire admettre au niveau de l'Europe par des directives quelconques que le lobby du gaz de schiste, c'est-à-dire en gros les pétroliers et les autres, EDF et compagnie, ont le droit de faire de l'exploitation en Europe, et bien ça va forcément s'appliquer à la France. Donc est-ce que le nom de Hollande sera encore aura la moindre validité face aux commissions et autres instances européennes ? C'est pas gagné. Robert, tu voulais nous parler de pépère dans les jardins.
Oui, puis sur ce que tu disais sur le gaz de schiste, on a effectivement ce positionnement, on va dire, à contre-courant, quand on se veut de gauche, au PS, ou donc proche du Front de Gauche, de Montebourg, qui effectivement aujourd'hui incarne tout ce que pouvaient être les conditions du développement, de la croissance à travers l'industrie à pas forcer, en utilisant, en passant par le nucléaire, et puis demain le gaz de schiste, etc. ce Montebourg-là, je crois qu'il va finir, si ce n'est déjà fait, par ne plus guère trouver de soutien derrière ceux qui pensaient que à François Hollande, il fallait déjà préparer une alternative. Et ceci nous amène donc à évoquer le discours de François. Ce n'est pas un discours, hein, c'est un entretien avec la presse d'hier, à l'occasion du 14 juillet, qu'il a fait à l'Élysée, alors qu'il ne voulait plus le faire à l'Élysée. Bon, c'est une petite contradiction du personnage, qu'il aime bien jouer avec ça. Bon, laissons-le avec son joujou. Et qui, avec l'aplomb dont il se dote quelquefois, pour dire des choses qu'il ne pense pas, dit « ça y est, c'est sûr, on est sorti de la crise ». Alors, l'interprétation des médias est un peu différente sur cette question-là. Certains disent « mais non, il a voulu simplement dire qu'on approche des signes indiquant qu'on va bientôt quand même réellement sortir de la crise économique et sociale ». La crise économique, pour un Français, pour un citoyen, ben c'est le chômage, c'est la baisse des aides sociales, c'est l'augmentation des prix d'un certain nombre de choses, etc., discrètement. Bon, donc pour Hollande, il semble avoir dit qu'il sentait.
Ah ben, mot à mot, il a dit la reprise est là.
Là ?
La reprise est là.
D'accord, ben oui.
Bourgeois avait dit la même chose en inversant les mots, je crois. Donc, ça, on est dans la même situation, hein, non ?
Oui, c'est même. C'est encore plus hallucinant, cette expression « la reprise est là ». Mais
Quel entre,
il
comme disait Ferré.
Oui, là, il y avait Dream, comme disait le pasteur. Il a fait un rêve, Hollande. Bon, je ne sais pas, pas en dire davantage, alors... La communication est quelquefois... Bon, il y a des couacs, hein, on a parlé du couac sur le gaz schiste, mais en même temps que ce 14 juillet s'avançait avec ces déclarations de Hollande, la veille, c'est la veille, pratiquement, ou deux jours avant, on apprenait qu'enfin, une entreprise... qui n'est plus française depuis longtemps, Pechiney, mais qui est devenue Rio Tinto, puis ensuite est devenue Alcan. Alcan, ce sont des Canadiens. Eh bien, allait être sauvée, que 500 salariés de la Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne, mais aussi dans le Tarn-et-Garonne, vont pouvoir continuer parce que on a trouvé un repreneur allemand. Alors évidemment, cet entrepreneur allemand, ça n'est pas la pointure de Mittal, hein, ça n'a rien à voir. Parce que Hérault s'est complu en quelque sorte, enfoncé un peu Montebourg, et c'est bien fait pour Montebourg. S'il ne faisait pas des discours, il n'est jamais suivi des faits. On n'en serait pas là. Hérault a dit on a trouvé la bonne méthode pour sauver les entreprises. C'était évidemment, tout le monde a compris à qui ça s'adressait, cette réflexion de Hérault. Alors bon, semble-t-il, il n'y aura pas de licenciement, il y aura peut-être quelques départs à la retraite, des choses comme ça, mais bon, ça va continuer, ben, ma foi. Oui, je crois que c'est Hérault qui a dit, voilà, on a eu des déconvenus sur l'acier, mais par contre, succès dans l'aluminium. voilà, c'est un peu la tonalité triomphaliste d'un 14 juillet, vu du côté de l'Élysée et de Matignon.
On va vous donner des nouvelles des riches, vous savez, qui souffrent beaucoup et qui protestent contre les impôts qui vont augmenter. Depuis un an, les pauvres, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ben, ils ont perdu 1% de leur pouvoir d'achat. Et les riches, elles ont augmenté de combien leur richesse depuis un an? 25%. Ah bon? Et les 10% du patrimoine, vous savez qui c'est qui le détient, les 10% du patrimoine français? 1/100 000ème de la population. Alors on peut bien nous expliquer que les socialistes sont au pouvoir, on a du mal à suivre. Et puis je voulais vous parler des écluses baladeuses. Oui, méfiez-vous, vous n'avez jamais vu une écluse qui se promène, qui vole avec ses petites ailes ou qui saute dans la rue? Non, moi non plus. Des écluses, vous remarquez, c'est un peu pareil, hein, on en est au même point. Oui, alors l'histoire de l'écluse qui va toute seule là où elle doit pas aller, ça j'y crois pas.
Il y en a 5 000, il paraît, à peu près.
Ah bah oui, il y en a dans tous les écluages, il y en a partout, hein, des écluses.
5 000,
hein.
C'est une
pièce de fer qui fait au bas mot 20 kg et qui est fixée par 4 boulons qui font 25 mm de diamètre, avec un écrou, ça ne se dévisse pas tout seul, même si l'aiguillage n'a pas été contrôlé une semaine avant. Il y a une autre explication. Bon, pour le moment, on ne veut pas nous la donner. Hein. Il a fallu attendre déjà 2 jours et demi pour que certaines radios laissent entendre que c'était peut-être un sabotage. On ne sait pas si c'est terrorisme ou pas terrorisme, ou simplement sabotage de... On a déjà connu, hein, les lignes SNCF sont sans arrêt en retard parce que, soi-disant, il y a eu des sabotages sur les caténaires, sur autre chose, des barres de fer au milieu de la voie pour court-circuiter les... Et ben on va voir, hein, moi j'en sais rien, je suis pas plus renseigné que vous, mais je sais ce que c'est qu'une éclisse, et je pense que si elle était mise sur la voie coincée entre dans un aiguillage là où les trains devaient passer, et un train qui arrive à 140 à l'heure, effectivement là il n'y a pas de beaucoup de chance pour que ça se passe bien, et c'est ce qui est arrivé. Donc un accident grave, 6 morts, 38 blessés, hein, des gens qui étaient sur le quai ont vu arriver sur eux à 100 à l'heure une voiture, vous pensez bien que vos chances de survie sont des plus minimes, et voilà, un gros... Alors bon, tout le monde charge un peu la brouette, la SNCF dit qu'elle va réviser les écluses, la CGT et les éclisses, pardon, la CGT et les syndicats disent que c'est parce que le matériel est mal entretenu qu'on en est arrivé là. Effectivement, le matériel est mal entretenu, mais je crois qu'il faut quand même pas pousser le bouchon trop loin et que ça n'a pas vraiment de rapport dans ce cas-là avec ça. Ceci dit, on peut rappeler quand même que quand la SNCF était une entreprise nationale, elle gérait à la fois le matériel roulant et le matériel des voies, et qu'elle était tenue à entretenir les deux, et qu'à un moment donné, on a voulu créer RFR, Réseau Ferré de France, qui était une entreprise qui ne devait s'occuper que de l'infrastructure, que des voies, et qu'on confierait les wagons, les trains, enfin tout ce qui rapportait de l'argent, où on vendait des billets, on donnerait tout ça au privé, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait. Même si c'est pas trop encore en France, sur les lignes internationales, c'est bien commencé. Du coup, ben, qui c'est qui voulait mettre de l'argent dans l'entretien des voies? Ben, personne, hein, ça rapporte rien. Et comme l'État n'arrête pas de diminuer les tâches qui lui reviennent en diminuant les crédits associés, il est évident que le réseau se détériore. Mais c'est pas de la faute à pas de chance, hein, et c'est de la faute à une politique délibérément orientée dans ce sens-là, d'avoir voulu privatiser la SNCF et faire des activités rentables et laisser les autres se débrouiller comme elles pouvaient. Allez, j'en dis pas plus, on attend la suite, mais on finira bien par connaître. Et à mon avis, on connaîtra la cause de l'accident quand l'émotion sera retombée, parce que pour le moment, l'émotionnel, ça fait tellement vendre de papier et de journaux télévisés qu'il faut y aller, quoi.
Oui, d'ailleurs, la SNCF, effectivement, c'est... Tant mieux par rapport à son image du passé, mais ça n'est plus son image d'aujourd'hui. Cet accident, 6 morts, ben c'est 6 morts de trop, c'est beaucoup moins que quand un avion se crache et qui fait 100 ou 200 morts. L'aviation, finalement, dans tous les pays, c'est également un service au public. Hein, parce que avec les privatisations, le service public n'existe pratiquement nulle part, on voit presque plus. Bon. Et donc, c'est du service au public. Air France ou d'autres, s'ils ont un accident, il y en a eu, bon, évidemment, ça ne soulève pas l'émotion dont tu parlais, que cette émotion à propos de l'affaire de Brétigny. Et puis pareil, quand t'as un car qui transporte des voyageurs ou des touristes, se jette dans un ravin, ça arrive encore, qui produit plus ou moins une catastrophe sur une autoroute, ça peut faire également 5, 6, 7, 8 morts. Certes, on en parle, et puis tout le monde monte au créneau, là, pour dire ce qu'il en pense, tout ça, mais ça n'atteint pas ce niveau, je dirais presque, peut-être pas employer le mot d'hystérie, mais presque, hein, tellement comment les médias sentent qu'ils peuvent faire beaucoup d'argent, de débats audiovisuels, les radios, les télés, et puis le papier, tout ça, sur cette affaire. On peut même pas dire que c'est un mauvais coup, c'est une tentative pour déstabiliser Hollande, parce que la SNCF, elle a été déstabilisée depuis bien longtemps. Et Hollande, au contraire, il a, un des rares aspects positifs en matière d'investissement, puisqu'il est très pingre, il n'a pas de sous pour investir. Mais il a dit quand même, on investira dans le transport, et notamment dans la SNCF, SNCF, RFF, on va abandonner les TGV, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Et puis on va effectivement revoir un peu les lignes intérieures, et notamment cette fameuse ligne. Alors j'ai vu qu'on l'appelait c'est la POLT. Elle s'appelait la POLT. Parce que Paris, Orléans, Limoges, Toulouse, POLT. Voilà. Alors, je prends le POLT, c'est effectivement, faut rappeler que la directive européenne qui préfigurait tout ça, mais après tout on n'est pas obligé d'accepter les directives européennes, elle date de 91, et le début de cette mise en application date de 1997, et qui était au gouvernement en 97, je ne sais plus. C'était le dernier gouvernement, c'était Jospin ou pas en 97?
On va pas dire des bêtises, on va rien dire.
Non, voilà, on va rien dire. Enfin, de toute façon, on voit que c'est une affaire qui est effectivement tout à fait liée au débat qu'on porte très négatif, que la gauche progressiste et radicale, et puis les gens sentent bien que cette Europe de la Commission européenne, c'est du capitalisme ultralibéral, et qu'il faut en sortir de ce capitalisme.
Allez, encore un petit peu de social, puisqu'on sait maintenant que Pilpa, c'est les glaces de Carcassonne, hein, qui ont été rachetées par une boîte que la société n'intéressait pas du tout. Ce qui l'intéressait, c'était le carnet de commandes. Donc la boîte a été liquidée en 9 mois. Fermeture, les ouvriers se sont battus. Voilà, un an après, où on en est? On en est qu'ils ont obtenu des primes de 25 à 100 000 euros par salarié licencié. Et puis surtout, ils ont obtenu l'espoir et la possibilité de pouvoir redémarrer en SCOP en 2014, l'année prochaine. Donc la lutte des Pilpa n'est pas finie, et elle pourrait, si l'activité redémarre, puisqu'ils estiment qu'elle est tout à fait rentable, mais c'est de la spéculation financière pure qui a conduit à leur fermeture, que ça pourrait repartir. Molex, les Molex sont au prud'homme, les Molex de Villemur, hein, et ils réclament l'annulation de leur licenciement. Seront-ils suivis? On peut se poser la question. Puis il y a cette affaire de la DCNS qui est intéressante, puisqu'il y a 2300 salariés qui pourraient être concernés. Et ils utilisent pour préchauffer les tôles qu'ils sont amenés à souder des câbles de préchauffage, et ils auraient découvert que ces câbles contenaient de l'amiante, et des dizaines, peut-être des centaines de salariés sont concernés. Du coup, il y a un droit de retrait qui a été mis en place par les salariés, puisqu'un certain nombre manifeste des troubles pulmonaires et autres qui seraient liés à la présence d'amiante dans l'atmosphère. Si ça se révèle exact et généralisé, ça va être maus, hein, parce que décontaminer des ateliers de cette dimension, où il y a 2000 personnes, plus de 2000 personnes qui travaillent, c'est pas rien. Mais la santé est à ce prix. D'autres infos, Robert, as-tu repéré autre chose à nous dire?
Une négociation qui est un recul à nouveau des positions sociales des travailleurs, c'est la création de ce contrat à durée indéterminée intérimaire. Alors, j'ai essayé un peu de comprendre ce que c'était, mais en fait, ça paraît finalement très clair. Ça veut dire que une partie des gens qui sont en intérim, sous certaines conditions, selon l'agrément de à la fois de l'État et des entreprises d'intérim, seront dotés d'un contrat à durée indéterminée.
3%.
C'est 3%.
3% des salariés.
Ah bon, ça va alors, donc, d'accord.
La CGT a dénoncé la magouille en expliquant qu'en fait, ouais, si les boîtes d'intérim faisaient ça, c'était pour échapper à la surtaxe qui vient d'être décidée pour les travaux de courte durée. Quoi. Donc c'est une opération, c'est un enfumage. Quoi.
Oui.
C'est pas une grande avancée sociale comme on aurait pu l'espérer ou le croire. Et ça concerne 3% des intérimaires.
Et puis faut-il, j'avais noté qu'il nous fallait verser une larme sur le troisième EA perdu.
Oui, oh bah ça, quand c'est les banques qui se mettent des notes, moi je veux bien me mettre un quadruple A. Il ne faut pas se laisser impressionner par ça. Hein, mais bon.
On est trahi par un Français, parce que Fitch, je crois que c'est un Français qui dirige.
Oui, c'est une boîte
Fitch.
Française.
Alors, si en plus il nous tire dans le dos, Fitch, où va-t-on?
Je dirais un mot de la soirée du 14 juillet sur la 2. Bon, c'était pas l'affaire de votre vie à regarder, hein, mais j'étais assez consterné quand même, parce que le 14 juillet, on fête la révolution du 14 juillet 89. Hein. Alors, il y avait l'orchestre de Radio France, il y avait des chefs, des chanteurs, c'était grandiose, c'était sous la Tour Eiffel. Mais vous savez quel est le gugus qu'on a été chercher pour emblématique, pour animer la soirée qui fêtait la révolution? Eh bien, on a été chercher ce lèche-cul de roi et de princesse qu'est Stéphane Bern. Et voilà le guignol qui osait présenter un hommage à la Révolution française. C'est à se rouler par terre de rire. Quoi.
Et il y a quelqu'un qui se revendique ouvertement d'être monarchiste.
Oui, oui. Ben, il y a pourtant quelqu'un à Radio France ou à la télévision française qui a été lui dire « c'est vous qui allez faire la soirée ». Pauvre de nous. Allez, une chose importante, intéressante, qui est passée complètement à l'as. Les actualités inconnues, comme on dit dans une certaine émission de France Q. Le 27 mai est maintenant la date anniversaire de l'hommage à la Résistance. C'est la date de la création du Conseil National de la Résistance. Et ça faisait des années que les associations de résistance se battaient pour obtenir une journée officielle de commémoration. Et le Sénat l'a voté le 28 mars dernier. L'Assemblée nationale, ce 9 juillet, c'était la semaine dernière, donc, instauration d'une journée nationale de la résistance le 27 mai, donc la prochaine, 27 mai 2014. C'est l'aboutissement d'un combat de 25 ans pour toutes les associations de résistants qui réclamaient cette commémoration. Ils en sont très satisfaits, je vous le cache pas, et on essaie de le faire savoir parce que je pense pas que ni TF1 ni la 2 n'ont ouvert leur journal là-dessus le 7 juillet, le 9 juillet, pourtant il y avait de quoi. Quelques infos autres culturelles, ben pendant un peu sur le même registre, mardi demain, 16 juillet à 18h, dans les salons de l'hôtel de ville à Villeurbanne, deuxième étage, journée commémorative des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux justes de France, entrée libre, bien sûr, dans la limite des places disponibles, et la ville de Villeurbanne, depuis 13 ans, commémore la journée nationale des justes à sa façon, en invitant la population. As-tu quelques infos culturelles ou autres, Robert? Enfin, on peut annoncer quand même que demain soir à 20h, tu seras de nouveau là pour animer un tremplin qui sera consacré à un certain regard, on va dire, sur le Festival d'Avignon à mi-parcours. Ce ne sera pas inintéressant que tu pointes un petit peu ce qui s'est passé, puis ce qui est intéressant, puis les troupes lyonnaises peut-être, je ne sais pas, tu as mis quoi au programme de ce tremplin?
Oui, c'est, C'est plutôt une errance dans ce rassemblement mondialisé presque, puisqu'aujourd'hui, par exemple, dans le HOF, sur les 1200, sur les 1000, oui, à peu près 1200 compagnies qui sont présentes. Alors une compagnie, ça peut être une personne toute seule, hein, faut pas penser que la compagnie théâtrale, c'est un ensemble de plusieurs, de beaucoup de personnes. C'est souvent une personne toute seule, ou deux. 10% sont des compagnies internationales, hors hexagone, et certaines viennent même d'Asie. Bon, c'est un peu conséquence peut-être du travail qui a été fait dans le festival. Le festival IN. Alors, on a dit IN, c'est arrivé après, parce qu'il y a eu le festival, donc créé tout de suite après-guerre par Jean Villard. Et puis, fin des années 60, les contestataires gauchistes théâtreux d'Avignon, avec des gens, avec à leur tête des André Benedetto, des Gérard Gélas et puis quelques autres, ont décidé de faire un théâtre alternatif. Alors c'était à la fois... Bon, ça contestait Jean Villard, ça l'a contesté surtout l'année 68, le pauvre. Il était très malheureux, Jean Villard, en 68, parce que les autres l'ont un peu traîné dans la boue.
Les gauchistes voulaient lui casser son jouet.
Oui, oui. Donc, pour les gens, pour que les choses soient claires, comme ils se sont appelés off naturellement, c'était autre, ailleurs, bon, c'était l'idée de Benedetto, de Gélas et des autres, et de Alain Léonard aussi, le créateur de l'ombre, qui est sans doute le personnage le plus fabuleux de ce début du off, du off en Avignon. Donc, s'appelant off, il fallait que l'autre, les gens, les médias avaient besoin de lui trouver un nom. Donc, on a dit, s'ils sont off, les autres sont donc in. Et c'est comme ça que le in, IN est intervenu. Mais dans tous les documents festival officiels, il n'y a ni le mot officiel, ni le mot in. Il y a festival d'Avignon, point. C'est tout.
Voilà, donc, on va pas en dire plus, hein, parce qu'il faut en garder pour demain.
Oui, c'est cette errance-là qu'on va évoquer. Alors, on le dit tout de suite, bon, on ne va pas faire une énumération de pièces. Ça, c'est formidable, ça, c'est mauvais, c'est pas bon. C'est pas ce que j'ai essayé de faire en parcourant ce grand moment qui se déroule actuellement à Avignon.
Voilà, bah écoutez, Scania Info se termine. Nous vous invitons à rester à l'écoute à l'antenne. Il sera diffusé normalement demain matin à 8h et puis vous pourrez le trouver sur Internet. Nous vous souhaitons une bonne soirée à l'écoute de Radio Canu et on se quitte avec les notes de musique de Gérard Lapalue. Tango.